Vous écoutez Dutrisac, Cube Radio.
Alexandre Dubé est avec nous faire le tour des nouvelles. Alex, bonjour.
Salut Benoît.
Bon, le bilan COVID du jour, on se croise les doigts.
On est à 785 cas supplémentaires, un décès de plus aussi avec des hospitalisations en hausse, 20 de plus pour un total de 250 et 7 personnes de plus aux soins intensifs pour un total de 85. Ça, Benoît, ce que ça veut dire, là, c'est que la pression est de plus en plus forte sur notre système de santé qui en a quand même déjà mangé une claque dans les vagues précédentes de COVID-19. Donc, François Legault a commenté cet avant-midi en disant travailler jour et nuit pour mettre en place des incitatifs pour ramener les infirmières dans le réseau public, et ce, rapidement. Mais là, tu regardes ça de l'extérieur, c'est pas facile à faire, ramener des infirmières dans le réseau de la santé, parce que, Benoît, tu peux pas faire comme avec les préposés aux bénéficiaires. Souviens-toi, cette espèce de grosse opération, on en forme rapidement, on leur promet des conditions salariales qui, quand on écoute les commentaires de ceux et celles qui quittent le réseau aujourd'hui, désabusés de cette promesse non tenue qu'ils qualifient de François Legault, ben, tu peux pas fonctionner de la même façon parce qu'une infirmière, ça ne prend pas quelques mois à former, ça prend des années à l'université. Et là, le PM a dit quelque chose d'intéressant, a dit qu'il était prêt à offrir un salaire comparable à ce qui était offert au privé. Alors là, tu dis, OK, est-ce qu'on va aller jusque-là?
C'est pas juste une question de salaire, une question de conditions de travail aussi.
Ah, t'as entièrement raison. Oui, t'as entièrement raison. Ça, c'est clair, parce que depuis quelques années, moi, j'ai fait bon nombre d'entrevues avec des médecins, avec des gestionnaires qui disent, on se fait voler du monde par le privé. Est-ce que ça va être suffisant? J'ai hâte de voir, parce que, tu sais, je sais pas si t'as vu le point de presse, la mêlée de presse de Christian Dubé, ministre de la Santé, hier, mais je t'ai dit que, tu sais, on apprenait que les hôpitaux de certaines régions du Québec allait encore une fois probablement connaître du délestage au cours des prochains jours en raison d'un manque de personnel. Même si la pandémie, oui, contribue à la pénurie de travailleurs en santé, ben c'est pas la seule raison, c'est pas la seule responsable. Il y a des régions plus touchées que d'autres, comme ma région natale, l'Abitibi-Témiscamingue, qui vont devoir fermer, par exemple, une urgence pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bris de service non planifié. Puis plus loin que ça, en fin de semaine, je faisais une entrevue.
Excuse-moi. Oui, on arrête de donner des services pour assurer qu'il n'y ait pas de bris de service.
C'est particulier. Hein? C'est-à-dire que on la ferme pour dire, regarde, là, est fermée. On va rediriger les ressources ailleurs, comme ça, il n'y aura pas de bris de service soudain ou spontané parce que, je sais pas, moi, ils sont à découvert, quelqu'un peut pas faire son quart de travail ou avec le temps supplémentaire obligatoire, mais tu sais, il y en a qui font des heures et des heures.
Ben, je comprends, mais je parlais avec Antoine Joubert tantôt. Ben, oui. C'est comme barrer un pont puis dire, ben, prenez-en l'autre. Mais tu règles pas le problème du pont, là.
Ben non, tu règles pas le problème du pont.
Ben, écoute, t'es qu'un kayak.
Actuellement, là. Ouais, je t'avais, moi. Je me suis mis au paddleboard cette année, là. Je t'avais de m'en venir, moi, des Laurentides jusqu'à Montréal. Ah, paddleboard, ça va peut-être aller plus vite que ça à 15 cet avant-midi. Ça avait aucun sens,
ben,
tu sais.
Oui.
Et je te parlais de l'Abitibi-Témiscamingue. Actuellement, là, et ça a été prolongé, OK? Quelqu'un qui accouche, mettons, quelqu'un qui vit à Ville-Marie, OK, au Témiscamingue, doit faire 130 km pour aller accoucher à Rouyn-Noranda. Okay, ça, c'est à peu près une heure et demie de route là dans des bonnes conditions, parce que des fois, les conditions routières là-bas sont pas évidentes. Ça va être prolongé jusqu'à mi-novembre, fin novembre. Tu sais, écoute, on a un drôle de système de santé, des fois, surtout dans certaines régions du Québec, qui sont vraiment moins bien servies que d'autres.
Ouais.
Et le ministre de la Santé, Christian Dubé, a vraiment mis en garde que la région de Montréal non plus est pas à l'abri de tout ça. Si on voit le nombre d'hospitalisations reliées à la COVID augmenter au cours des prochaines semaines, et quand on regarde le nombre de personnel manquant, il manque 4000 infirmières dans le réseau de la santé, c'est devenu intenable de ce côté-là. Puis, tu sais, Benoît, je regardais le bilan COVID, là, 30 000 tests, OK? Et on ne peut pas, honnêtement, demander aux gens, allez vous faire tester contre la COVID, puis les faire patienter pendant 2 heures, comme on voit dans certaines cliniques actuellement. Ça a ni queue ni tête, cette histoire-là. Il faut offrir des services au monde. Je veux dire, là, on a fermé des cliniques, on a levé le pied sur certaines mesures, et là, on s'aperçoit que dans la quatrième vague, ben là, après ça, les gens, quand quand ils ont au moins la volonté de se lever là puis d'aller se faire tester pour pas contaminer d'autres personnes, ouais. Ben ils ne peuvent pas attendre 2 heures. Moi, je trouve ça complètement ridicule. On songe à ramener là, la clinique, entre autres, au stade olympique là, en début de semaine prochaine, nous dit-on, là, pour essayer de réduire là, la pression sur les autres cliniques.
Hey, dis donc, Alex, toi qui connais tout, la quatrième vague, là, elle dure depuis combien de temps?
Ben écoute, la quatrième vague, je te dirais c'est fin août, hein, à peu près. Un petit peu avant la rentrée scolaire.
Ouais.
Un petit peu avant la rentrée scolaire, quand on voyait là, la fin des barbecues, là, fin août. Mais... Puis quand on regarde les chiffres, écoute, on est en avance de l'année passée, là. T'sais.
OK, le passeport vaccinal, c'est va falloir se brancher, hein?
Ouais, ben parce que là, aujourd'hui, donc. 15 septembre, c'est fini là, la période de grâce pour le passeport vaccinal. Donc là, politique de tolérance zéro qui s'applique maintenant pour les citoyens, pour les commerçants récalcitrants à l'utilisation du code QR. Et c'est la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qui a prévenu qu'il allait plus avoir de passe-droit maintenant. Donc si vous vous pointez pour aller, par exemple, dans un restaurant, dans un gym, ben vous devez absolument présenter votre code QR, votre pièce d'identité. Le commerçant a l'obligation de le faire aussi. Et puis il y a des amendes assez salées de 1 000 à 6 000 $ qui pourront dorénavant être émises par les autorités. La ministre aussi a souligné que des dénonciations citoyennes sont possibles et que des vérifications et inspections vont être faites sur le terrain. Mais honnêtement, Benoît, là, si les gens hyperventilent à l'idée de présenter leur passeport vaccinal, ils ont peut-être pas vécu beaucoup d'adversité dans leur vie.
Non. C'est bien dit. Le variant Delta qui est à l'origine en Égypte, je me trompe pas, quand ça a dégénéré, puis le gouvernement s'est pas préoccupé de la santé publique, là, laisser des rencontres religieuses et politiques avoir lieu, faut le dire, là, variant Delta, ça veut rien dire. Il y a une origine à ce variant-là, ben ça continue sa progression dans nos écoles.
Ouais, d'origine en Inde, effectivement.
En Inde, pas en Égypte, en Inde.
On les a dans une école sur 4 au Québec actuellement, Benoît. Ça fait pas si longtemps que ça que les jeunes sont venus à l'école. Ça fait quelques semaines à peine. Alors là, on presse le pas pour distribuer les tests de dépistage rapide. Ça avait été un flop en début de semaine. Là, Daniel Paré, directeur de la campagne provinciale de vaccination, s'en vient. Et on les a déployés dans 72 écoles, principalement à Montréal et à Laval. Mais là, ce qui est intéressant relativement aux écoles, c'est que la santé publique québécoise aurait demandé, au cours des derniers jours, un portrait vaccinal de l'ensemble des salariés du milieu de l'éducation. Ça, c'est ce que dit le syndicat canadien de la fonction publique. Ils ont sorti ça dans un communiqué tard hier soir. Et selon ce que dit le syndicat, Benoît, les directions d'établissement avaient jusqu'à hier pour fournir cette information. Là, ça s'est fait sans consultation des représentants syndicaux. Et là... le syndicat dit craindre que Québec étende la vaccination obligatoire au réseau de l'éducation, comme il l'a fait dans le milieu de la santé. Je suis un peu surpris, moi, de la position du syndicat, alors que des fois des sondages nous démontraient, puis témoignages d'enseignants démontraient qu'ils n'étaient pas nécessairement fermés. Alors encore une fois, le syndicat, par l'obligation de défendre ses membres, ben va défendre finalement la position de dire oh non, on n'en veut pas de vaccination.
Et défend la minorité au lieu de défendre la majorité.
La prochaine étape, ils vont-tu défendre Amalega qui s'en va avec son porte-voix écœuré jeune dans toutes les écoles du Québec?
Ouais. Ouais, le prix Nobel.
Ça me surprend. Ah oui, oui, écoute, oui, c'est ça. Il y a une bonne pile de contraventions, d'ailleurs.
Ouais, hein, on devrait peut-être le forcer à les payer avant de sortir de chez lui.
J'ai bien hâte de voir, moi, s'il va les payer. Moi.
Ouais, avant qu'on se quitte, 11 nouveaux chefs d'accusation contre qui?
Ouais, c'est, tu sais, souviens-toi, là, une histoire épouvantable survenue sur l'autoroute du Frein-Montmorency à Québec, c'était le 2 septembre passé. Tu sais, le chauffeur, là, en état d'ébriété, qui a décimé une famille, qui a tué, donc, un grand-père, une mère de famille, les deux enfants qu'il y avait aussi à bord de la voiture, Emma Lemieux et Jackson Fortin. Donc, le gars en question s'appelle Éric Légaré. Et là, il y a 11 nouveaux chefs d'accusation qui sont venus alourdir son dossier parce que, bon, le décès des enfants a été constaté un petit peu plus tard, donc ça change également le dossier. Le gars, c'est un récidiviste de l'alcool au volant. Alors, des accusations en lien avec la conduite, avec les capacités affaiblies par l'alcool, causant des lésions aussi à d'autres personnes impliquées dans la collision, ont été portées contre lui. Accusations de délit de fuite, accusations en lien avec le taux d'alcool retrouvé dans le sang de l'accusé. Alors, bref, la liste d'accusations est très, très longue. Maintenant, enquête sera remise en liberté de son client le 24 septembre prochain.
Comment ça, remise en liberté?
Ben, c'est ce que son avocat demande.
Ouais, c'est bon.
Hein? C'est ça.
Lui, on devrait...
T'as bien résumé la situation.
Oui, je pense que oui, on est tanné de ces gens-là.
Ça n'a aucun sens. Ouais. Et puis, c'est un récidiviste, là.
Ouais.
Pas la première fois. C'est un récidiviste, puis là, il a décimé une famille. Mmh. Ça va prendre quoi?
Je sais pas, il doit être fier de son coup, là. On se laisse là-dessus, Alex. On se reparle demain.
À demain, Benoît.